Radio Kapi.
Vous informer en cette soirée, c'est d'abord cette prise de position tranchée du cardinal Fridolin Ambongo qui dénonce la spoliation de la concession du grand séminaire Saint-Jean 23 à Ngaliema. Et l'ambassadeur congolais John Nyakero, frère biologique de la première dame Denise Nyakero, est mis en cause par rapport à cette spoliation. À suivre également dans ce journal, c'est ce cri de détresse des plus ou moins 75 enseignants de plusieurs villages de la province du Haut-Lomami qui se retrouvent à Kamina afin de réclamer leur salaire. Ainsi en appelle-t-il à l'implication des autorités compétentes pour qu'ils entrent en possession de leur dû mensuel. Liévin Bissimois, secrétaire général du Conseil provincial de l'Ordre national des architectes, est notre invité en fin de ce journal. Avec Cynthia Bachizi, il va parler de la problématique de consulter les architectes dans tout projet de construction de maisons, fidèles auditeurs. Merci de choisir Radio Okapi pour votre information. Bonsoir à toutes et à tous. Billy Ivan Lutumba, la présentation de ce journal. Le cardinal Fridolin Ambongo qualifie de banditisme d'État la spoliation de la concession du grand séminaire Saint-Jean 23 à Ngaliema, archidiocèse de Kinshasa, par certains particuliers. Les spoliateurs présumés désignent l'ambassadeur congolais John Nyakero, frère biologique de la première dame Denise Nyakero, par qui il serait passé pour obtenir les titres des propriétaires sur un site appartenant à l'église catholique selon le cardinal depuis l'époque coloniale. Reportage de Jeff Ngoy.
Nous apprenons qu'un certain monsieur John Kamba a la propriété de cette
terre. Non,
là ça ne va pas comme avocat.
C'est un duel empreint d'une violence verbale entre l'avocat des présumés spoliateurs et le cardinal Fridolin Ambongo, accompagné des séminaristes, des prêtres, de son évêque auxiliaire et du conservateur des titres immobiliers de la commune de Ngaliema, dépêché sur le site par le ministre des Affaires foncières. L'avocat Katako Okito dit détenir les vrais titres de la part du conservateur. Celui-ci les qualifie d'illégaux.
L'église a des titres connus et nos clients ont des titres connus.
Lorsque le titre est établi sur des bases irrégulières, ce titre est remis en cause.
Quand les titres sont remis en cause, excusez-moi de vous interrompre, la procédure est connue, c'est la justice.
C'est vous qui nous établissez les titres.
Carlos Ndaka, évêque auxiliaire, dénonce la famille biologique du président de la République, dont John Nyakero.
Ce terrain appartient à l'archidiocèse de Kinshasa avant que tous qui sommes ici puissions naître. On entend citer les noms de John Nyakero, de certains magistrats de la Gombe, Gabriel Bondo de la NER. Donc ce sont des gros poissons qui sont là derrière. Nous sommes prêts à aller avec cette histoire devant la justice.
C'est sous ces entrefaites que le cardinal ordonne la construction des murs de clôture et le déploiement de quelques éléments de la police pour sécuriser la superficie de près de 4 hectares querellés.
Des affrontements ont opposé depuis le week-end dernier trois communautés du territoire de Katanda dans la province du Kasaï oriental. Bilan, deux personnes de Benin Chimba ont été tuées à coups de machette, trois autres blessées grièvement et plusieurs maisons incendiées dans les localités de Bakwachitongo et de Bumbu dans le territoire de Katanda à plus ou moins 60 km de la ville de Mbujimayi. Le conflit foncier est l'élément principal qui est à l'origine du rebondissement des troubles entre les habitants des groupements de Bena Mwembia, Bena Kapuya et Benin Chimba. Le ministre provincial de l'Intérieur et le commissaire provincial de la police nationale congolaise d'intérim s'attellent pour se rendre sur place afin de s'imprégner de la situation. Des explications avec Esther Ndalafina.
Au cours des affrontements de ce lundi, deux personnes de Benin Chimba ont été tuées à coups de machette, trois autres blessées grièvement et 47 maisons ont été incendiées dans le village de Bokwachitomo, affirment les sources concordantes. Une autre personne est morte suite aux affres des traumatismes à répétition dans son groupement, d'après certains témoignages de ses proches. La même source précise que les Bena Kapuya, en connivence avec les Bena Mwembia, ont attaqué pour la énième fois leurs voisins de Bena Chimba. D'après les autorités locales, il nous revient que l'affaire a rebondi vers la fin de la semaine dernière lorsque une famille de Bena Chimba a rapatrié de Mbujimayi une dépouille mortelle des membres de la famille pour enterrer à Bena Kabeya. Voyant une foule nombreuse qui chantait, leurs voisins de Bena Kapuya ont imaginé que la foule s'étaient bien investis pour les attaquer. Dans leur fuite, ils sont allés incendier une quarantaine de maisons qui venaient d'être reconstruites dans le village d'Mbumbu après les troubles du mois de mars dernier. Pendant ce temps, les habitants de ces trois groupements en conflit ont déserté leur village et se sont abrités à Katanda. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
L'actualité nous amène dans la province du Olomami où 75 enseignants venus de plusieurs villages de cette province sont à Kamina depuis plusieurs semaines pour réclamer leur salaire de 3 mois. Jusqu'à présent, ils ne sont toujours pas servis par la banque qui est censée les payer. Ils en appellent à l'implication des autorités nationales pour décanter leur situation. Jean Gandou nous en parle.
Ces enseignants disent avoir quitté leur milieu depuis plusieurs semaines sans avoir terminé toutes les matières prévues dans le calendrier scolaire. Après avoir attendu en vain leur salaire des 3 derniers mois, ils se sont décidés de rejoindre la ville de Kamina, chef-lieu de la province du Olomami, où se trouvent les bureaux de la banque qui les payent. Jusqu'à présent, ils n'ont aucune suite favorable et continuent pour la plupart à passer la nuit à la Belle Étoile, s'exposant ainsi à toutes sortes d'intempéries. Parmi ces enseignants qui constituent un échantillon, on compte 25 femmes, dont 12 ayant des bébés et 3 qui attendent famille. On écoute le cri de détresse de cette enseignante venue du territoire de Kanyama.
Je suis enseignante de l'école primaire, territoire de Kanyama. Je fais 200 km à pied avec mon bébé. Je fais une semaine en route Kanyama-Kamina. Il y a 3 mois que je ne suis pas payée. Nous sommes nombreux, nous dormons dehors, nous manquons la nourriture. C'est pénible vraiment. Demandons au chef de l'État et son gouvernement de s'impliquer dans cette situation douloureuse.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de la banque incriminée sont restés. Sur place à Kamina, certains députés se mobilisent pour apporter leur assistance à ces enseignants en détresse, notamment pour leur survie. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Examen d'État édition 2022 dans la province du Kwango. Le gouvernement provincial promet de prendre en charge les études universitaires et supérieures des lauréats qui vont exceller. Annonce faite par le gouverneur de province, Jean-Marie Petit-Petit. Il l'a dit alors qu'il lançait officiellement ses épreuves hier lundi à l'Institut Chinda Kwango à Kenge. À l'occasion, il a déclaré que plus de 25 000 candidats prennent part à cet examen à travers toute l'étendue de la province du Kwango. Le chef de l'exécutif a également insisté sur le respect strict de son arrêté portant fixation des frais de participation à la dite session ordinaire. Les propos de Jean-Marie Petit-Petit sont recueillis par Irène Mboma.
En effet, 25 221 candidats, filles et garçons, vont devoir participer à ces épreuves, soit 16 197 pour Kwango 1 et 9 024 pour Kwango 2. À vous, très chers finalistes, pour avoir atteint la fin du cycle secondaire, dont le titre ouvrira les portes de l'université. Recevez mes félicitations. Je vous exhorte à bien réfléchir. Faites confiance en vous-même. La province du Kwango compte prendre en charge les lauréats qui vont exceller. La chance est donnée à tout le monde. Saisissez l'opportunité qui vous est offerte. Que tous les acteurs et partenaires éducatifs trouvent ici l'expression de notre gratitude. En même temps, je vous invite au respect strict de l'arrêté provincial relatif à la fixation des frais scolaires et autres, soit 60 000 francs congolais par élève pour la session ordinaire.
Au Nord Kivu, les acteurs de la société civile du territoire de Lubero déplorent les conséquences socio-économiques de la grève des 2 jours décrétée par les conducteurs des mototaxis de la région de Butembo, Beni, Lubero depuis lundi. Ces derniers protestent contre la hausse du prix de carburant dans la région. Des transporteurs de poissons à partir du lac Édouard par moto et d'autres produits agricoles vers les grandes agglomérations ne travaillent pas non plus. Grâce à Mzati nous fait le point.
Dans la partie sud du territoire de Lubero par exemple, des grandes quantités de poissons issus des chefferies de Kamandilac, Kiserera et Lunyasenge sur la côte ouest du lac Édouard n'ont pas pu être évacués depuis lundi vers les grands centres de consommation. Selon Sami Sakumi, président de la société civile de Kamandi, cette situation constitue non seulement un manque à gagner pour les fournisseurs de poissons, mais aussi risquerait d'influencer la hausse du prix de cette denrée sur le marché. Du côté nord-ouest du territoire, notamment dans les secteurs de Bapéré et la chefferie de Bassoa, ce sont plus les agriculteurs et d'autres vendeurs de produits vivriers qui en paient le prix. Cette zone est l'un des greniers de la ville de Butembo. Témoignage de Mumbere Kaichu Pargelas, un acteur de la société civile dans la région.
Nous n'avons que des mototaxis ici chez nous comme moyen de déplacement et moyen de transport. Les agriculteurs ont eu du mal à évacuer leurs produits des champs jusqu'au centre de commercialisation ou de consommation. Et nous appellerons aux organisateurs d'avoir pitié de cette pauvre population. Donc qu'ils voient une autre voie, une autre façon de revendiquer leurs droits.
Ces acteurs de la société civile interpellent aussi les autorités quant à ces Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Dans le territoire de Béni, les services de sécurité ont mis la main sur plusieurs personnes dans le secteur de Rouenzori pour des enquêtes. Selon ces services, ces personnes seraient de près comme de loin impliquées dans le chaos sécuritaire qui sévit dans ce secteur. Toutefois, le porte-parole des opérations Sokola 1 dans la région indique que seule la justice décidera de leur sort. Marc Marofimbo pour des précisions.
Parmi les personnes arrêtées figurent certains acteurs de la société civile, notamment le président de la société civile du secteur de Rwenzori. S'y ajoutent également les directeurs d'une radio communautaire émettant des Lume ainsi que certaines autres grandes personnalités de la région. Ces derniers sont arrêtés par les services de sécurité car suspectés dans l'une ou l'autre situation sécuritaire dégradante dans ces secteurs. Pour les porte-parole des opérations Sokola 1 de la région, seule la justice décidera de leur sort. Le capitaine Anthony Malouchaï.
Nous avons interpellé beaucoup de gens pour en savoir plus. Mais ce n'est pas pour dire que tous ceux qu'on a interpellés sont des coupables. C'est comme ça, la sécurité, ça marche comme ça. Et c'est juste question de vérifier les allégations portées contre eux. Et si c'est fondé, ils vont faire face devant la justice. Si ce n'est pas le cas, et bien sûr, ils seront relâchés.
C'est depuis le début de ce mois de juillet que plusieurs incidents sécuritaires ont été rapportés dans le secteur de Rwenzori, notamment à Boulongo et à Lume. Les services de sécurité se sont mises en œuvre pour dénicher certains collaborateurs et acteurs de ces incidents dont plusieurs sont déjà aux arrêts. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Dans la province du Sud Kivu, 634 blessés de guerre ont été pris en charge depuis le début de cette année par le CICR et ce, dans des centres hospitaliers de référence à Bukavu, Goma et Beni. Cela dans le cadre du projet de prise en charge des blessés par armes. Ces chiffres ont été donnés ce lundi par le CICR à Radio Okapi. Cette assistance médicale est organisée par le CICR conformément à ses principes d'impartialité et de neutralité. Lassane Zongo, responsable de programme chirurgical au CICR Sud Kivu, explique également qu'un centre d'excellence en chirurgie de guerre sera bientôt opérationnel à Bukavu, ce qui permettra aux acteurs locaux de s'approprier toute l'expertise en chirurgie de guerre. Lassane Zongo au micro de Cynthia Bachizi.
Les 6 premiers mois de l'année nous présentent un total de 634 blessés qui ont été pris en charge dans les structures de référence, l'hôpital provincial général de référence de Bukavu et l'hôpital de Ndosho, avec bien sûr une antenne au niveau de l'hôpital général de référence de Beni. Quand les patients arrivent, ils sont donc admis et sont mis dans le circuit de prise en charge et de bout en bout, ils reçoivent donc les soins conformément à leur état. Et lorsque les soins finissent, alors le CICR a également une alternative pour les accompagner pour leur retour dans leur foyer. Je peux vous rassurer que au début donc du projet en 2012-2013, le CICR avait des équipes d'expatriés au niveau de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Et déjà dès 2015, c'est des chirurgiens donc de l'hôpital qui ont pris désormais en main l'activité chirurgicale. Et très prochainement, il y a un centre d'excellence en chirurgie de guerre qui est en train d'être mis en place au niveau donc de Bukavu pour pouvoir renforcer l'offre de formation.
Avant de passer à la page internationale, le HCR, bureau du Tanganyika, a facilité ce lundi la relocalisation des 400 ménages au village Elia, à 13 km de la ville de Kalemie. D'après l'associé du terrain HCR Tanganyika, ces retournés vivaient depuis quelques années dans le site de déplacés de Kalunga à 5 km de la ville de Kalemie. Il précise que ce site est habité depuis 2017 par quelques milliers de déplacés ayant fui des incursions des miliciens dans leur village et des conflits intercommunautaires entre Twa et Bantou. On écoute François Mukendi, associé de terrain au HCR Tanganyika. Il est au micro de Paulin Munanga.
Premièrement, il faut souligner que c'est dans le cadre de recherche de solutions durables aux personnes déplacées internes dans le Tanganyika que la sous-délégation du HCR Kalemie s'est alignée sur la stratégie d'accompagner les personnes déplacées dans leur village de retour ou bien village de relocalisation. Et cette facilitation a été appuyée par une aide en cash de la part du HCR, cash pour faciliter leur transport et aussi cash multisectoriel. Pour faciliter le transport, c'est-à-dire pour leur permettre de quitter le site de Kalunga pour rejoindre le village de relocalisation qui est Elia, à 13 km de Kalemie. Vous constatez que c'est une distance qui avait fallu au moins un appui. A donné aussi un cash multi-usage. Ce cash multi-usage, c'est pour permettre à ces derniers d'aller arriver au village Elia où ils doivent reprendre normalement leur vie parce que c'est ça l'idéal. Et ce cash multi-usage pourra leur permettre de répondre aux besoins essentiel et immédiat allait arriver.
Actualité internationale.
Des délégués de tout le continent africain ont entamé lundi des discussions au Rwanda à l'occasion du premier congrès africain dédié au rôle des aires protégées dans l'avenir de la planète. Le congrès des aires protégées d'Afrique de l'Union internationale pour la conservation de la nature IUCN, la PAC, se déroule quelques mois avant la tenue de la COP15 biodiversité en décembre à Montréal, qui doit adopter un cadre mondial pour mieux protéger la nature ravagée par les activités humaines à horizon 2050 avec une étape en 2030. Les aires protégées sont essentielles à la survie de la planète, a estimé le directeur général de l'IUCN, Bruno Auberle, au premier jour des discussions dans la capitale rwandaise Kigali. Elles doivent se poursuivre jusqu'au 23 juillet et réunissent quelques 2000 participants. Le bilan du conflit tribal qui oppose les Haoussa aux Barti dans le sud du Soudan est d'au moins 60 morts et 163 blessés. Depuis une semaine, des affrontements autour de la répartition des terres agricoles ont éclaté dans l'état du Nil bleu. Des milliers de membres de l'ethnie Haoussa impliqués dans le conflit tribal qui frappe depuis une semaine le Soudan ont monté lundi des barricades et attaqué des bâtiments publics dans plusieurs villes. La violence a d'abord éclaté il y a une semaine entre les Haoussa, des agriculteurs présents dans toute la bande sahélienne, et un autre groupe, les Barti. Dans l'état du Nil bleu, frontalier de l'Éthiopie, les autorités dénombrent au moins 60 morts et 163 blessés.
L'invité.
Sud Kivu, environ 80% de la population de Bukavu ne fait pas appel à un architecte lors d'un projet de construction. C'est une révélation faite par Liévin Bissimois, secrétaire général du Conseil provincial de l'Ordre national des architectes. L'architecte en appelle à la responsabilité des uns et des autres pour assainir le secteur et mettre fin à la prolifération des constructions anarchiques dans la ville. Liévin Bissimois est notre invité, il s'entretient avec Cynthia Bachizi.
Liévin Bissimois, bonjour.
Bonjour madame.
Lorsqu'aujourd'hui vous voyez le paysage architectural ou même le paysage urbanistique de la ville de Bukavu, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
Il y a beaucoup de problèmes. Il y a le non-respect de la loi. À Bukavu, 80% de la population, je crois, construit sans l'autorisation de bâtir. 100% de la population construisent presque sans tenir compte des normes urbanistiques. Alors que la personne qui est mieux placée pour donner toutes les directives aux clients, c'est l'architecte. Une fois que l'architecte n'est pas consulté, imaginez les restes. Je prends votre exemple, vous voulez construire. La première des choses, vous devez commencer par consulter un architecte. C'est lui qui vous dira que non madame, ce terrain va vous coûter cher, ou voilà, vous pouvez investir. Il vous fait un plan. C'est lui qui vous donnera d'autres directives, que non, voilà, ce que je trouve, il faut consulter un géomètre topographe pour les études, la pente du terrain. Et lorsque vous revenez encore pour lui, il va vous dire, voilà, moi je pense que le sol n'est pas bon. Consultons un ingénieur géotechnicien pour les études du sol. Donc c'est la personne qui doit vous guider. Et lorsque vous ne consultez pas cette personne, attendez-vous à des dégâts.
Donc aujourd'hui, dans Bukavu, très peu consultent des architectes.
Et je dirais presque pas. Ils sont très rares, à part les confessions religieuses et l'État.
Vous, vous représentez l'ordre des architectes, mais est-ce que la population n'est pas lassée aussi? Parce qu'il y en a peut-être certains qui ont fait recours à des architectes, mais qui n'ont pas été à la hauteur.
Je pense que non. Dire que certains ont fait appel à des architectes et qui n'ont pas failli à leur mission, moi je m'inscris en faux. Parce que lorsqu'un architecte vous le consultez ne fait pas sa mission comme il se doit, allez vous plaindre au conseil provincial. Le problème sera analysé et on va vous remettre dans vos droits. Donc l'organe est déjà là.
Comment alors assainir le secteur de la construction dans Bukavu?
C'est simple. Les lois existent. La mise en application des lois. Je parlais de la loi numéro 6 de 2019 portant code de l'urbanisation. Là-dedans, on te dit qu'il faut consulter les experts. Là, on te décrit des tailles des parcelles. À Bukavu, je crois que c'est l'unique province de la RDC où nous avons des parcelles de 6 sur 9. Lorsque vous parcourez les schémas directeurs de l'urbanisme, cette taille-là n'est pas déterminée dans ce document. Parce qu'il y a des trames très économiques, des trames économiques, les moyens et les trames riches. Mais vous ne trouverez pas les mesures des parcelles que nous avons dans la ville de Bukavu dans ce document. Il n'y en a pas. Donc c'est déjà hors norme.
Hors norme, donc la responsabilité incombe à l'État de faire respecter les lois.
Mais bien c'est clair. Quand quelqu'un se met à construire un immeuble parce qu'il a son argent, n'a pas consulté qui que ce soit, et demain, il y a des dégâts. Et là, en province, commence à crier l'architecte, qui n'a pas été consulté. Alors, on décline toutes les responsabilités. C'est à l'État de faire respecter ces lois. Parce qu'il circule sur la route, il voit comment on est en train d'empiéter les emprises de la route, mais rien n'est fait. Ce n'est pas à moi, un architecte simple, qui ira dire à ce monsieur, non, monsieur, tu empiètes déjà l'emprise de la route. Je n'ai pas de compétences. C'est à l'État de le faire.
Vous avez parlé du recours à l'architecte, mais vous n'avez pas fait allusion à l'ingénieur. Est-ce que ça va de pair? Où se situe la différence entre le travail que fait un architecte et celui de l'ingénieur?
Madame, il y a la loi 18/34 du 13 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des architectes. La mission de l'architecte est bien déterminée là-dedans. La mission de l'ingénieur est déterminée dans l'autre. Je crois que c'est la loi 18/33, je crois. C'est deux choses différentes, mais les deux se complètent. C'est différent les deux, mais ils se complètent. Mais là où la mission de l'architecte prime, parce qu'on nous dit que c'est la personne qui est habilitée à ménager les espaces où l'homme vit et séjourne. Donc la première personne qu'il faut consulter pour toute construction, c'est l'architecte. C'est lui qui vous dira, ici, il faut consulter maintenant les ingénieurs pour le calcul des structures, par exemple. Là, ça dépasse les compétences de l'architecte. Il vous dira, avec la qualité des sols que je vois, il faut un géotechnicien pour les analyses de sols. Donc, c'est la personne qui connaît quoi faire pour que votre bâtiment soit réalisé tel que souhaité.
Vous êtes pour la construction d'une nouvelle ville en dehors de Bukavu?
C'est une question à débattre. Parce qu'il faut d'abord se poser la question, est-ce que Bukavu est déjà surpeuplé? Si oui, que faire? Soit on peut déplacer la ville, c'est possible. Tout comme on peut, sur le même superficie de la ville, et reconstruire encore la ville de Bukavu. Donc, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs scénarios à faire. C'est question de mener des études là-dessus. Mais je précise qu'il y a l'unité de planification spatiale. C'est un grand cabinet qui a mené des études sur ça. Et ils ont fait un joli modèle qu'il faut vraiment pour la ville de Bukavu.
Donc, il n'est pas encore trop tard pour sauver Bukavu?
Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Il faut que l'État martèle là-dessus. Il faut que nous aussi, nous puissions l'accompagner parce que lui-même ne saura pas. Et puis, dans 5-10 ans, on aura une très belle ville. Mais si on laisse ça comme ça, et c'est fini. C'est fini.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Fidèles auditeurs, voilà comment se referme cette édition de journal sur Radio Okapi. Nous vous disons merci pour l'attention particulière que vous nous avez accordée.